Quel ETF avoir dans un PEA ?
Si t'investis sur un an et en fait t'as pas de pourquoi et dans un an t'arrêtes, bon, ça sert à rien d'investir sur un an globalement.
Et en fin de compte, on a une moyenne du coup de pension, retrait de pension, de 800 euros par mois. Qu'est-ce que tu vas vivre avec 800 balles par mois ? Et ça, j'ai l'impression que c'est toujours la même chose, que le marché réagit toujours par effet d'euphorie. Et ensuite que ça se calme, que la hype se calme, et quand ça se calme, bah en fin de compte, on se rend compte réellement ce qu'il y a derrière.
Moi, la raison principale de pourquoi j'investis en ETF, c'est parce que c'est l'investissement le plus performant pour un particulier.
Investisseur, j'espère que tu vas bien. On se retrouve donc pour trois séries très spéciales et très particulières où en fin de compte, on va attaquer sur trois piliers pour forger sa sécurité, mais aussi sa liberté financière. Et j'ai un invité de marque sur laquelle on va s'appuyer sur trois piliers. Je suis avec Mathieu de la chaîne S'investir. Donc, on va traiter trois piliers à la fois de l'investissement, de l'immobilier et également de l'entrepreneuriat. Et on va commencer par ce premier épisode qui est la bourse. Et donc, qui est de mieux pour parler de bourse que de Mathieu de la chaîne S'investir ? Mathieu, comment tu vas ?
Ça va très bien. Et toi ?
Ça va super. Premier épisode. Alors, c'est vrai, t'as vu, on change un peu de décor. Ça fait vachement plaisir.
Ouais.
C'est la première fois que je fais ça aussi, tu vois. Tu seras la première personne.
Mais moi aussi, c'est la première fois, interview comme ça, en réel.
T'as vu, on change totalement. On n'est plus derrière notre bureau. Et ça fait plaisir aussi de te voir, tu sais, dans un autre cadre. Je suis sûr que les gens, ils n'ont pas l'habitude de te voir comme ça.
Et ça fait plaisir de se voir en vrai aussi.
Bah ouais, souvent tu vas voir, donc on va discuter sur plein de thématiques et également sur les questions de nos abonnés donc qui nous ont posées. Et on va voir donc les différentes étapes pour investir en bourse. Donc vous allez voir, donc vous allez nous suivre, vous qui êtes en direct avec nous, enfin en direct. Nous on est en direct, mais vous êtes en décalé. Avec différentes étapes, je crois qu'on est à 6 étapes sur lesquelles j'ai remarqué par rapport aux questions des abonnés. La première étape, Mathieu, donc on attaque tout de suite. Juste avant, peut-être, parce qu'il y a peut-être des nouveaux qui viennent de nous rejoindre, mais est-ce que tu peux te présenter un petit peu ? Parce que c'est vrai que moi, certains de mes abonnés te connaissent, mais ouais. Peut-être que certains d'autres ne te connaissent pas.
Yes, donc moi, c'est Mathieu Louvet. Effectivement, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Mathieu Louvet S'investir. Et je fais pas mal de pédagogie sur l'investissement, notamment les ETF, la bourse. Mais je parle aussi d'immobilier, de SCPI, de crowdfunding. Et puis également à côté, je suis conseiller en investissement financier, enregistré auprès de l'Orias, etc., accrédité pour faire ce métier. Et voilà, on a aussi un site internet, on a un programme de formation, d'accompagnement. Donc voilà, on aide vraiment les particuliers et aussi les chefs d'entreprise à investir et à développer leur patrimoine.
Ah donc ouais, s'investir, c'est pas uniquement le particulier, ça s'adresse aussi donc aux plus grands investisseurs. Donc c'est vrai que c'est super intéressant. Tu vois, moi je te voyais vraiment petit abonné, tu vois, le petit particulier qui cherchait à placer, tu vois, un petit peu son argent. Maintenant tu t'occupes aussi de grands groupes, c'est ça ?
Non, pas de grands groupes, juste de chefs d'entreprise. En général, c'est des gens qui ont des PME, hein. c'est pas des grands groupes, pas du tout, c'est pas coté au CAC 40.
Peut-être du tout, c'est pas.
Non, c'est plus des chefs d'entreprise, des fois c'est des solopreneurs, donc des gens un peu comme toi, tu vois, qui ont une société, voilà. Après, on aide beaucoup plus des particuliers que des chefs d'entreprise, mais on développe aussi cet axe chef d'entreprise parce que c'est quelque chose qu'on connaît bien aussi, parce que moi-même je suis chef d'entreprise, donc je me suis beaucoup renseigné sur ça et on a développé cette expertise au fil de l'eau.
C'est génial en plus de t'émanciper comme ça pour voir un autre public, parce que j'imagine que particulier et peut-être les plus grands chefs d'entreprise, c'est pas du tout la même gestion d'argent, etc. Non,
alors il y a des similitudes, ouais. Quand même il y a des similitudes. Maintenant effectivement c'est pas les mêmes solutions, c'est pas la même analyse et c'est plus complexe le chef d'entreprise, clairement.
Donc plus gros capital, j'imagine,
plus gros capital, des structures qui sont différentes, parce qu'on va à la fois gérer en fait le patrimoine du particulier, parce que le chef d'entreprise c'est un particulier et c'est aussi un chef d'entreprise. Donc il faut composer avec ces deux faces, quoi.
Ok, très bien. Est-ce que tu peux nous dire peut-être nous dévoiler un chiffre sur combien est-ce que par exemple ton plus gros client, est-ce que tu peux nous dévoiler des chiffres?
Pour dire, donc notre plus gros client en patrimoine, il a à peu près 25 millions. Voilà, donc c'est son patrimoine personnel.
Donc c'est génial. Et toi, donc tu es là pour conseiller, donc justement comment placer ces 25 millions, etc. Donc c'est
conseiller, vrai que faire un suivi, un pilotage. Okay. Voilà.
Et justement, bah nous, alors, parce qu'il y a des gens certainement qui vont nous écouter et qui vont se demander, ouais, mais moi j'ai pas 25 millions à placer en bourse. Tu vois, est-ce que, comment est-ce qu'on peut arriver à placer 100 euros, 1000 euros ? Justement, vous allez voir qu'en fin de compte, il est tout à fait accessible d'investir en bourse à partir de 10 euros, à partir de 100 euros. Enfin, il y a des applications maintenant qui démocratisent très bien l'investissement. Et justement, donc on va venir sur cette première étape, alors ce que j'appelle l'étape zéro, même avant de commencer. Donc merci tout d'abord Mathieu de t'être présenté. Pourquoi est-ce qu'on aurait, nous particuliers, ce souhait justement de vouloir investir en bourse ? Pourquoi est-ce que toi tu penses que c'est un... Pour quelles raisons, en fin de compte, est-ce que c'est, si on peut dire, urgent, entre guillemets, avec tout ce qui se passe ? J'ai noté certains points là, sur mon PC, mais est-ce que toi tu as des points particuliers que tu aimerais montrer ? Le seul besoin d'investir maintenant et pas demain, quoi.
Ouais. Bon, alors, il y a plusieurs points, clairement. On pourrait parler d'inflation, de retraite, de plein de choses. Je pense que le point le plus important pour les gens quand ils veulent investir, c'est qu'ils ont compris, je pense que ça vient de là au début, la puissance des intérêts composés. Je pense que c'est le premier... moi, je sais que j'ai déjà vu l'émerveillement dans les yeux de quelqu'un où tu lui dis, voilà, les intérêts composés, est-ce que tu connais ? Non ? Ok, alors du coup, c'est en fait le fait que tu investisses aujourd'hui 100 euros par mois. Tu vois, si tu fais du 10% par an en bourse, eh bien, à ta retraite, tu auras peut-être presque 1 million de patrimoine. Tu te dis, mais comment ? Et là, tu lui expliques les intérêts composés, tu montes la courbe, etc. Et peu à peu, la personne, elle se dit, ok. Donc en fait, on peut avoir de gros résultats en investissant très peu, en faisant un petit peu des efforts au quotidien. Et je pense que quand les gens se rendent compte de cette puissance-là, déjà, ça suscite une envie. Après, il y a plein d'autres choses, les dangers de ne pas investir aussi. Mais je pense que c'est le premier maillon à bien comprendre. Une fois que tu as bien compris ça, tu dis, ok, il y a quand même quelque chose à saisir. Et si je ne le fais pas, je passe à côté de quelque chose d'assez grand, quoi.
Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui passent à côté justement de ces intérêts composés. Et il y a un principal facteur pourquoi les gens n'aiment pas et ne comprennent pas, c'est qu'il faut attendre longtemps pour faire fonctionner les intérêts composés. C'est-à-dire que vous n'allez jamais pouvoir vous enrichir rapidement, faire fonctionner les intérêts composés en 5 ans. Je trouve que ce n'est pas possible. Je pense que tu m'arrêtes si je me trompe, mais pour s'enrichir en bourse, pour moi, il faut vraiment évaluer pour faire fonctionner les intérêts composés aussi sur une période de 20, 30 ans, voire 40 ans. Et là, la courbe commence à être vraiment exponentielle et c'est là qu'on commence à s'intéresser. Mais malheureusement, comme l'a dit Warren Buffett, il y a très peu de personnes qui souhaitent s'enrichir lentement et tout le monde souhaite s'enrichir rapidement. Donc ça, malheureusement, c'est pour ça que les intérêts composés se conjuguent très mal avec des personnes qui souhaitent s'enrichir rapidement. Et malheureusement, en bourse, quand tu essayes de parler, de faire le distinguo, tu sais, entre trading, les gains court terme et l'investissement long terme, pour moi, c'est deux métiers qui sont totalement différents. Enfin, deux métiers. Deux placements totalement différents. Il ne faut pas mélanger le trading et puis l'investissement long terme. Parce que le trading, c'est, pour moi, il n'y a pas d'intérêt composé, pas vraiment. À part si tu fais les choses correctement. Enfin, je connais certaines personnes qui le font bien. Mais c'est moins passif. Trading, je sais pas si on peut aller là-dessus, mais enfin on va rester sur cette étape-là. Mais ouais, tu l'as dit, donc retraite, inflation, peut-être l'inflation pour les gens qui ne nous connaissent pas, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'est l'inflation? Alors moi je sais personnellement, mais toi?
Yes, l'inflation c'est assez abstrait et c'est pas évident forcément de s'en rendre compte. L'inflation, c'est le fait que sur la durée, le prix des services et des biens qu'on achète, les prix en général augmentent. Ils augmentent actuellement autour de 6% en rythme annuel. Et donc, en fait, c'est assez abstrait parce que toi, sur ton compte, tu as par exemple 1000 euros. Okay. Et bien, dans un an, tu as encore 1000 euros. Donc, tu te dis, j'ai pas perdu d'argent. J'ai toujours 1000 euros. Mais en termes de pouvoir d'achat, tu as perdu de l'argent. Et donc, c'est en ce sens que c'est un petit peu abstrait parce qu'il faut se dire, avec 1000 euros, il y a un an, je pouvais m'acheter... Alors, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut s'acheter avec 1000 euros, un très bon téléphone, ouais, imaginons. Et bien, dans un an, probablement, ce téléphone, il est plus à ce prix-là. Mmh. Ou alors, j'ai le modèle en dessous. Enfin, j'ai le même modèle, mais un an plus tard, en fait, maintenant, il est dévalué parce qu'il y a un nouveau modèle. Et alors là, j'ai pris l'exemple du téléphone. S'il faut, ça ne marche pas avec les prix des téléphones. Mais voilà, en général, les prix des biens et des services qu'on achète actuellement au rythme annuel augmentent de 6% par an. Ce qui fait que si aujourd'hui tu as 10 000 euros, imaginons que tu places ces 10 000 euros, que tu les laisses sur un compte courant pour ton enfant. Imaginons que tu viens d'avoir un enfant qui vient de naître. Ces 10 000 euros, dans 18 ans, donc quand ton enfant il sera majeur, au rythme annuel à peu près de 5-6%, dis-toi qu'ils auront fondu d'à peu près la moitié. Voilà. Donc, tu crois que tu as placé, enfin, que tu as épargné 10 000 euros pour ton enfant, mais en fait, quand il sera majeur, eh bien, tu as perdu 5 000 euros en termes de pouvoir d'achat réel. Et 5 000 euros ont été cramés, entre guillemets, et il se retrouvera avec que 5 000 euros, quoi. 5 000 euros cramés et 5 000 euros qui restent. Ça, c'est... Donc, c'est ça l'inflation.
C'est vraiment impactant parce qu'il y a un truc qui est vraiment fou et que les gens ils n'arrivent pas à comprendre. C'est que même là, si on regarde un petit peu les chiffres de l'INSEE, même sur l'alimentation, le pire c'est sur l'alimentation. Quand tu vois le prix de la viande qui a augmenté, le prix des pâtes qui a augmenté, etc. L'alimentation, je crois que là, ce mois-ci, avec les chiffres de l'INSEE, bon, l'inflation diminue de manière générale. Mais par contre, quand tu regardes l'alimentation, il y a plus 14%, je crois, en termes d'inflation. Donc l'alimentation, ce qu'on consomme le plus... Certes, ok, tu vois, 1000 euros, ça bouge pas, t'as toujours 1000 euros. Mais par contre, vu que le prix d'alimentation augmente et vu que tu fais tes courses quasiment tous les deux mois, enfin, tous les deux mois, non, quand même pas, mais je pense que tu vois, tous les mois ou toutes les deux semaines, en fin de compte, ça va se faire ressentir. Tu vas payer des choses de plus en plus chères, mais par exemple, je sais pas, moi, au lieu de faire tes courses pour 80 euros, bah, t'en as pour 90 euros, mais tu multiplies ça sur tant d'années, bah, en fin de compte, tu vois clairement que tes 1000 euros n'ont plus du tout la même valeur qu'hier. Donc ça, ces gens-là,
ça je le vois parce que je me souviens très bien moi quand j'allais faire les courses avec ma mère, quand on avait un caddie à 100 euros, c'était un caddie qui était plein.
Ah ouais, 100 euros, ouais.
Aujourd'hui, t'es avec 100 euros, tu vas aux courses, c'est des sacs que tu peux porter avec les mains. Donc c'est ça l'inflation, c'est ça l'inflation.
C'est mortel. En fait, c'est vraiment ce que j'appelle une hémorragie interne sur l'argent.
Okay.
Mais non, mais je trouve, tu vois, que c'est vraiment une image, tu vois, vraiment. Alors, je sais pas si c'est trop YouTube va nous censurer. Non, parlez pas de sang. mais ouais, tout ça pour dire que, en gros, c'est vraiment quelque chose qui est indolore, mais sur le long terme, qui bouffe vraiment beaucoup de pouvoir d'achat et qui nous réduit vraiment drastiquement nos petits plaisirs de la vie, quoi. Et c'est vraiment ça. Donc, l'inflation, c'est le premier ennemi pour moi. Alors, moi, il y a trois ennemis. Tu vois, on avait parlé de système des retraites. Bon, est-ce qu'on peut aller sur le système des retraites? Je pense que c'est refait et refait, mais on le sait qu'il y a une dette qui augmente de plus en plus en France. On a de plus en plus de retraités. Donc forcément, ça ne va pas dans son sens. Et en plus, tu vois, avec toutes les décisions politiques, toutes les réformes, je pense que tu es d'accord. Qu'est-ce que tu en penses, toi, sur ça?
Oui, ouais, bah, c'est sûr. Hein, c'est passer la retraite de 62 à 64. Bon, on sait très bien que c'est les deux meilleures années de retraite qu'on nous enlève. Parce que c'est là où tu es en meilleure santé. C'est entre 62 et 64 dans ta retraite. Donc là, quand tu passes à 64, donc forcément, on t'a enlevé les deux meilleures années de ta retraite. Mais ça, clairement, je pense que c'est aussi un gros levier de se dire, en fait, avec les intérêts composés, avec l'investissement, avec des choses, on peut se créer des revenus annexes et on peut, en tout cas, en partie, ne plus se reposer uniquement sur cette retraite de l'État, etc. Ça, clairement, aussi, quand tu comprends ça et quand tu te dis « Ah oui, ça, en fait, c'est possible et si je mets des actions en œuvre pour y arriver », ça, clairement, c'est une grosse source de motivation aussi pour les investisseurs.
J'avais vu aussi quelque chose de fou. C'est, tu sais que la moyenne, alors pire chez les femmes que chez les hommes, la moyenne des pensions de retraite chez les femmes, c'est 717 euros, j'avais vu, par mois. Chez les hommes, c'est 800, autour de 800, non, de 900, un truc comme ça, chez les hommes. Et en fin de compte, on a une moyenne du coup de pension, donc retraite-pension, de 800 euros par mois. Qu'est-ce que tu vas vivre avec 800 balles par mois? Tu vois, c'est pour ça que moi, là, dans l'investissement, c'est pour ça que moi, j'aime bien construire des revenus passifs, donc que ça soit en SCPI, sur les actions à dividendes, sur l'immobilier fractionné, enfin bref, tout ça, on en reparlera, là, on reste sur la bourse, donc ça va rester principalement sur les actions à dividendes. Mais c'est bien de construire un revenu complémentaire pour pouvoir, en plus qui évolue d'année en année, parce que vous allez voir que les actions à dividendes, en fin de compte, ça grossit d'année en année, en termes de pourcentage sur le montant versé. Et donc, ça te permet, au bout de 20 ans, au bout de tes 60 ans, d'avoir, en fin de compte, un complément pour ta retraite. Je ne sais pas à combien vous montez, tout dépend de votre capital que vous mettez sur les actions à dividendes. Mais vous pouvez générer 600, 800 euros par mois grâce aux actions à dividendes, même beaucoup plus en fonction du capital et en fonction de votre stratégie. Mais ça peut être vachement intéressant pour compléter ça. Parce qu'à 800 euros, moi, clairement, je vois pas ce qu'on peut faire. Il y a aussi un quatrième ennemi, et ça, il n'y a personne qui en parle, mais c'est dingue. Parce que j'étais étudiant, je pense que tu as été aussi étudiant, c'est la précarité des enfants. Ça va de plus en plus mal. Je sais pas si tu as remarqué ça, mais en termes de 31%, j'avais vu une statistique de Paris-Narbor, je sais plus comment ça s'appelle la région, Narbor, c'est ça ? Tu connais Paris-Nanterre, un truc comme ça. Enfin bref, il y a une université là-bas qui a fait des statistiques sur la précarité des étudiants de chez eux. Et il y avait plus de 97% des étudiants qui disaient ne pas manger à leur faim. 97% sur le, bon, sur l'université Paris-Narbonne, tu vois, sur Paris-Nanterre, tu vois, c'était vraiment très restreint. Mais il y avait 97%, il y en a 31%, et ensuite il y a d'autres chiffres comme 24% qui vivent sous le seuil de pauvreté. Ouais. Et qui sont vraiment très très précaires. Et donc ça, pour moi, c'est vraiment alarmant. Et pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que du coup, il y a l'investissement, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais nous, en tant que parents, on peut prendre la responsabilité de réserver une petite poche de cash, pourquoi pas des petites liquidités, 100 euros par mois à placer, au lieu de le faire sur un livret A. C'est de le faire, pourquoi pas, sur des ETF, sur des actions à dividendes qui nous permettent de générer du rendement et de faire travailler les intérêts composés, comme tu l'as dit. Comme ça, arriver à un certain âge, arriver à 18 ans, passer 18 ans, par exemple, d'un investissement, et bah pourquoi pas créer une poche de liquidité. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, de ça. Qu'est-ce que tu aurais ton...
Ça, c'est une problématique qu'on rencontre beaucoup chez des parents. Même nous, là, qu'on accompagne. C'est clair que c'est une question qui revient. Il y a des solutions. Clairement, des enveloppes fiscales, je pense au PER, à l'assurance vie, un compte titre qu'on peut faire et pour préparer effectivement l'avenir de ses enfants à ses 18 ans ou pour préparer le financement des études. Enfin, clairement, ça, c'est quelque chose qui s'anticipe. Et je suis content de voir en tout cas, alors je sais pas si c'est juste ma communauté, j'ai pas fait des statistiques à l'échelle nationale, mais je suis content de voir que les parents commencent à s'y mettre et préparent dès la naissance. Et pour moi, ça, c'est clairement quelque chose qu'il faut faire.
Je pense que c'est vraiment indispensable parce qu'on a vraiment un coup, comme on a dit, l'inflation, ça ne touche pas que nous particulièrement, ça touche tout le monde. Ça touche à la fois les enfants, le système du CROUS qui est là pour donner des bourses, mais il y a moins en moins, vu que tout coûte de plus en plus cher, si les bourses sont maintenues à la même échelle, bah on a de moins en moins de pouvoir d'achat, les étudiants peuvent moins profiter entre guillemets de leurs études, donc ça, c'est vraiment une grosse problématique. Bon, je pense qu'on a vu l'entièreté des problèmes. Bon, il y a quatre ennemis vraiment que moi je constate, c'est précarité étudiante, inflation, retraite et pouvoir d'achat. C'est vraiment pour moi les quatre choses aussi. Et il y a une autre chose peut-être avant de vouloir, pour ceux qui seraient intéressés d'investir en bourse, je pense qu'il y a vraiment une chose avant même de se lancer, c'est de définir son pourquoi. T'es d'accord avec moi? En gros, vraiment se dire pourquoi est-ce que je décide d'investir en bourse, sur pourquoi. Je pense que c'est la première étape vraiment à se lancer. Pourquoi est-ce que je décide de mettre 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros? Pour toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Comment est-ce que tu caractériserais cette étape-là, se définir son pourquoi?
Ouais, je pense que c'est super important pour bien en fait profiter des intérêts composés, parce que tu l'as dit, c'est du long terme. Donc si tu investis sur un an et en fait tu n'as pas de pourquoi et dans un an tu arrêtes, bon, ça... Autant profiter de la vie et utiliser ton épargne, ça ne sert à rien d'investir sur un an globalement. Mais donc ouais, ça, c'est super important pour être bien motivé pour la suite et pour tenir sur le long terme et continuer tout ça, quoi. Donc ça, ouais, clairement très important. Et pour moi, le pourquoi, pour moi, les quatre dangers là, tu vois, qu'on a explicités, ça rentre dans le pourquoi, hein. Enfin, personnellement, moi, quand j'investis, je sais que c'est aussi pour ma retraite, je sais aussi que c'est pour contrer l'inflation, etc. Je sais que c'est pour préparer des projets, moi, qui me tiennent à cœur. Donc ça aussi, ça peut être des pourquoi. Projet, je ne sais pas, tu veux préparer l'achat d'une résidence principale, tu veux préparer un tour du monde ou je ne sais pas quelle passion tu as. Financièrement, ça se prépare. Ça se prépare et ça peut être une motivation forte pour investir, pour bien maîtriser son épargne. Ouais.
Ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Et ce pourquoi, vraiment, il doit piloter sur tout le long de nos investissements. Parce que si on ne sait même pas pourquoi on investit, je pense qu'on se dirait, mais pourquoi est-ce que je ne le mettrais pas sur un livret A, tu vois? C'est sécure, c'est garanti par l'État, le LEP, il fait 6%, ok, on est bien. Autant le mettre là-dessus. Pourquoi l'investissement en bourse? Parce que l'investissement en bourse, il y a ce qu'on a dit, il y a moins de plafonds concernant les deux livrets en termes d'épargne. Je crois que c'est 10 000 euros là bientôt sur le LEP et t'as 20 000 euros, 22 000 euros sur le livret A. Mais bref, c'est fixe et le livret A en plus est en dessous du seuil,
en dessous
de l'inflation. Donc en fait, vous gagnez rien concrètement.
Vous perdez.
On perd en plus.
Perdez le pouvoir d'achat.
Si l'inflation est à 6% et qu'on a un livret A à 3%, oui, on est...
Et ça c'est une grosse arnaque. Hein. Ça, il faut quand même que les gens comprennent que de base, le livret A, le calcul du livret A, est fait pour qu'ils suivent l'inflation. Et là, on a un gouvernement qui a dit, écoutez, là, on ne l'augmente pas. Ouais, il devait passer à 4,1, donc ce qui est en dessous de l'inflation. Il n'est pas passé à 4,1, il est resté à 3. Et donc, c'est entre guillemets une arnaque parce qu'il y a 1,1% qui manque dans notre équation. Et ça, si tu calcules avec les milliards qu'il y a sur le livret A, c'est des milliards en moins pour les particuliers.
Ouais, je suis entièrement d'accord. C'est un premier pourquoi, en effet. En fait, comme je l'ai dit, tu vois, pourquoi investir en bourse dès maintenant, ça rejoint un petit peu les différents dangers. Mais je pense qu'il y a encore plus précis, tu vois, qui donne vraiment envie de garder longtemps nos investissements. Que ce soit, comme tu as dit, très bien pour financer un mariage, pour financer une résidence privée, pour partir, vivre financièrement avec une somme qu'on a développée, pourquoi pas l'investir dans un projet immobilier, faire du Airbnb, puis ensuite vivre tout simplement de ses loyers. On peut faire tout simplement ça, enfin il y a plein de stratégies différentes. Mais en fait, ce qui est vraiment très important aussi d'un point de vue psychologique, c'est que le cerveau, en fin de compte, il va vraiment raisonner en termes de... Il y a une cohérence cognitive, c'est-à-dire qu'il y a même des recherches qui ont été faites dessus, même sur les enfants, etc. C'est qu'il y a des recherches sur Desi et Ryan en 2000, je crois que c'était avec des enfants d'entre 10 à 12 ans. Il disait que ces enfants-là étaient beaucoup plus motivés intrinsèquement lorsqu'il y avait un but bien défini en fin de parcours. C'est-à-dire qu'on te dit, voilà, ne fais pas comme tu peux. En gros, des objectifs faits comme tu peux, ça ne marche pas. Mais par contre, des objectifs clairement définis en disant, voilà, dans 10 ans, on veut que tu atteignes là. Ou alors, pour des petites étapes, tu dis, dans 2 ans, tu vas arriver ici. Quand il y a un but clairement défini, le cerveau est beaucoup plus enclin et beaucoup plus autodéterminé. Et je pense que vraiment, rester sur cette notion de pourquoi... C'est très important. Pendant que moi, je sais que j'investis en bourse parce que j'ai envie de me générer des revenus complémentaires pour ma retraite. Ouais. Moi, je sais quoi là, et pourquoi pas même partir bien plus tôt à ma retraite, prendre une retraite anticipée, tout simplement, pourquoi pas à 45 ans, et puis voilà, arrêter de travailler grâce à mes investissements, par exemple. Ça peut être une idée.
Ouais, en plus, j'y pense maintenant, mais le pourquoi, c'est bien pour tenir et continuer, mais c'est aussi primordial sur comment après tu vas investir, parce que tu vas pas du tout investir de la même manière si tu veux financer si par exemple tu veux acheter une résidence principale. Et eh bien on va peut-être utiliser le PER parce que tu peux débloquer les fonds pour l'achat d'une résidence principale. Mais si tu veux une retraite anticipée, le PER, ça se débloque qu'à la retraite. Or, du coup, achat de résidence principale et autres petites conditions comme ça. Mais donc, si c'est pour une retraite anticipée, ben là, on va peut-être pas prendre le PER. Donc, il faut bien aussi savoir quels sont tes objectifs. Et ça, quand tu vois un conseiller financier, un conseiller en gestion de patrimoine, ça, de toute façon, c'est une des premières choses qu'il va te demander, tes objectifs, pourquoi tu investis. Et ça ne sera pas les mêmes solutions en fonction du pourquoi. Donc, le pourquoi, c'est super important pour être motivé et tenir sur le long terme, mais aussi parce que tu ne vas pas investir de la même manière en fonction de tes objectifs. Donc,
ouais, je veux même en termes de seuil de risque, il y en a qui ont une aversion au risque un peu plus importante. Du coup, ils se disent, non, je préfère pas des actions, je préfère plutôt des ETF. Enfin, justement, ça, on va y venir justement sur les différentes stratégies. Et qu'est-ce que tu conseillerais, toi, à quelqu'un qui est bloqué? Par exemple, moi, quand j'ai commencé à investir, tu vois, j'avais peur. Tu vois, je me dis, non, je mets même pas 1 euro en bourse, je mets même pas 100 euros. Tu vois, j'ai trop peur, c'est pas possible. On était tous dans ce cas-là. Enfin, je sais pas toi comment tu étais. En termes de sentiments, ouais, moi, c'était une catastrophique. Moi, je prenais mon portable et puis je regardais quasiment toutes les 10 secondes savoir si comment évoluait l'action, etc. Donc, j'étais très à l'écoute de mes émotions. Comment est-ce que toi, tu conseillerais quelqu'un qui souhaite se lancer en bourse? Comment est-ce qu'il devrait réagir par rapport à ça?
Alors, j'avais une réponse. C'était de dire, ouais, commence par investir 1 euro.
Déjà. Ouais.
Mais alors, même si 1 euro, c'est compliqué pour toi. Je dirais, alors, une des premières étapes, c'est d'avoir ce que tu appelles, et moi j'aime bien ton image par rapport à ça, d'avoir ta ceinture de sécurité, ton permis d'investir. C'est donc l'épargne de précaution. Ça, pour moi, c'est primordial parce que donc, l'épargne de précaution, ça va permettre d'avoir une réserve de liquidité si demain tu perds ton emploi, si demain tu as une grosse dépense, etc. Sans avoir à piocher dans tes investissements, parce que donc, les investissements, c'est long terme, il ne faut pas piocher dedans avant un certain nombre d'années. Donc ça, ça va être primordial. Et en plus, tu vas être beaucoup plus serein ensuite pour investir, parce que tu vas te dire, ben voilà, si demain il y a un couac, il y a un petit problème, j'ai cette poche de liquidité avec moi pour pallier à ça. Et donc, je peux investir complètement sereinement après l'épargne dont je n'ai pas besoin tout de suite. D'ailleurs, ça, c'est primordial. On n'investit jamais de l'épargne dont on aurait besoin très rapidement. On n'investit jamais de l'épargne qui est notre épargne de précaution, notre épargne de sécurité. Ça, on ne l'investit pas. On la laisse dans des poches très liquides comme un livret A ou autre.
Je suis entièrement d'accord. Ouais, ce que je voudrais rebondir sur ce terme-là, tu vois, de ceinture de sécurité et le permis d'investir, c'est vraiment un concept que j'aime bien parce que ça parle beaucoup. Quand j'étais enseignant, tu vois, on avait un permis de grimper. en escalade. C'était tellement marrant, tu vois, avec les gamins, genre, tu vois, quand ils montaient sur le mur d'escalade, avant même de monter, mettre son baudrier, savoir s'encorder, savoir faire le nœud du 8, savoir mettre son mousqueton, tu vois, plein de trucs comme ça. Et donc, il y a plein de différentes étapes avant de se lancer et avant de prendre le risque de monter sur la voie, tu vois ce que je veux dire?
Ouais.
Et ensuite, t'avais un permis de descendre. Bon, on va pas jusqu'à là parce qu'il y en a qui chutaient des fois. Donc, voilà. Oui, je chutais pas très haut, je chutais de 2 mètres. Parce que forcément, il y a plusieurs étapes à respecter. Même 2 mètres, des fois, ils chutaient de 1 mètre. C'était pas. Ils avaient quelque peu le track. Et en fait,
ouais,
ce que
ils se cassaient une jambe.
Ils se cassaient une jambe, ça va. Alors, des fois, il y avait des ongles qui restaient sur les murs. Bon.
Ah, tu m'as l'air d'avoir été un très bon prof.
Je suis un très bon prof. Okay. Des fois, je les rattrapais en l'air. clairement. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que. Le permis d'investir, en fin de compte, il sert d'y aller vraiment graduellement et d'aller progressivement sur de l'investissement. Parce que pour moi, clairement, quelqu'un qui ne sait pas investir sur un livret A, qui ne sait pas épargner sur un livret A, il pourra jamais investir en bourse. Pour moi, clairement, déjà, il faut faire l'effort d'épargne. Une fois que tu sais épargner, je ne sais pas, déjà, si tu arrives à épargner 50 euros par mois, déjà, c'est excellent, c'est très bien. Et ensuite, le but, en fin de compte, le permis d'investir, c'est d'aller se constituer une épargne, une poche d'épargne. Qui va, par exemple, moi j'appelle, il y a trois niveaux différents en fin de compte sur le permis d'investir. On a le premier niveau, c'est tu mets entre 1000 et 2000 euros par, 1000 et 2000 euros sur ton livret A. Ensuite, tu passes niveau 2, tu passes à 3 à 4000. Ça, c'est niveau 2. Et ensuite, niveau 3, c'est vraiment le top du top. Souvent, on recommande entre 3 à 6 mois de salaire en avance. Donc là, tu peux monter à 8000, tu peux monter à 7000, voilà, ça dépend des revenus de chacun. Mais pour moi, j'aime bien vraiment raisonner comme ça. Et même. Pour celui qui veut particulier débuter, enfin voilà, c'est vraiment une métrique qui est facile à regarder. Voilà, on a un livret A, en plus c'est plutôt sécure. Bon, certes, ça bat pas l'inflation, mais en termes de formation, pour se former sur le tas, je trouve que mettre voilà des petites sommes régulièrement sur un livret d'épargne populaire, que ce soit le LEP ou que ce soit sur le livret A, je trouve que c'est très formateur. Pas ce que t'en penses, toi.
Ouais, tout à fait. Et après, juste, je rajouterais par rapport à quel montant tu dois mettre sur un livret A, il faut aussi prendre en compte ta situation personnelle. Quelqu'un qui a un CDI, qui est fonctionnaire ou autre, il va forcément pouvoir se permettre d'avoir une... Enfin, il a plus de sécurité au niveau de ses revenus, donc il aura un peu moins à mettre que quelqu'un qui est freelance, qui est indépendant, qui débute, qui a des revenus en dents de scie, etc. Où là, il faudra forcément... Qui a des enfants à charge, qui a un mariage à préparer. Enfin, tu vois, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Où là, forcément, tu dois mettre beaucoup plus d'épargne de précaution de côté, quoi.
Ouais, je pense qu'il y a des événements de la vie en plus qui fait que ça doit plus beaucoup être... Enfin, beaucoup plus compliqué d'épargner pour certains. C'est vrai que nous, on peut dire beaucoup de choses. C'est vrai qu'on se dit, ouais, voilà, il faut faire ça, il faut faire comme si. Mais à mon avis, il y a certaines personnes qui doivent vraiment être vraiment dans le rouge, vraiment en complication, vraiment des fins de mois, vraiment des qui sont très difficiles. Donc ça, on peut tout à fait l'entendre. Mais donc, moi, pour moi, je pense qu'avant même d'épargner, il faut vraiment remettre de l'ordre dans ses finances personnelles. Je pense qu'il faut savoir ce qui sort, vraiment ce qui sort trop régulièrement, que ce soit des abonnements à optimiser, tu sais, par rapport aux charges fixes. Avec la méthode 50-30-20, c'est donc 50% des charges, celles-là on peut vraiment les optimiser et souvent c'est 80% peuvent nous faire. Non, c'est plutôt ces 20% peuvent nous faire économiser 80%. La loi de Pareto, un petit peu. Tu vas vraiment optimiser ces petites choses, mais pour nous faire économiser de grandes choses à l'avenir. Donc que ce soit le loyer, que ce soit la voiture, que ce soit l'essence, que ce soit. Soit les abonnements, internet, téléphonique, tu vois, tout ça, c'est vraiment indispensable, si je puis dire. Et ça, je pense qu'on peut vraiment l'optimiser et grignoter un petit peu du 100 euros par mois, 50 euros par mois d'économie, quoi. Puis à la fin de l'année, ça peut donner des trucs très, très intéressants. Très, très intéressants.
C'est ça. Après, le deuxième élément, donc ça, c'est les dépenses. Deuxième élément, c'est le revenu de l'autre côté. Ça aussi, ça dépend vraiment de la personne. Ça peut être très délicat, quelqu'un qui est au SMIC, qui ne peut pas négocier son salaire ou autre. Mais il y en a pour certains, c'est possible. Renégociation de salaire, voir qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter ses revenus, un side business, des choses comme ça. Alors bon, ça demande du temps, ça demande du travail, etc. Après, voilà. En fonction des ambitions, des objectifs de chacun.
Ça justement, ça sera l'épisode, ça sera dans un autre épisode là. On va parler de side business. Comment? Parce qu'avec Mathieu, on a vécu une aventure entrepreneuriale, si vous voulez, où tout s'est passé en parallèle d'une situation salariale. Et donc on en reparlera dans un prochain épisode. Là, on reste focus sur la bourse. Alors, on va partir maintenant sur un autre point intéressant aussi pour se lancer, parce qu'il y en a certainement qui sont demandés, mais pourquoi 10 euros par mois, est-ce que c'est possible en bourse? Parce qu'il y en a beaucoup qui, à mon avis, qui font la distinction entre bourse égale riche. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que pour investir en bourse, il faut être riche. On a vraiment, en ce moment, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais on a une démocratisation de l'investissement, mais vraiment fou. Arrivé en 2020, période du Covid, il y a eu énormément de personnes qui sont intéressées à l'investissement. Et il y a eu beaucoup de plateformes, du coup, qui ont émergé, notamment pour proposer plusieurs choses. Des ETF. Alors, les ETF, ça existait, je pense, bien avant, mais sauf que voilà, c'était mis en lumière grâce à toi aussi, je pense, à travers ta chaîne. Il y a des ETF qui sont disponibles à partir de 30 euros, 34 euros, par exemple, sur un ETF du S&P 500.
Ça aussi, même 10 euros en fraction d'ETF, ça.
En fraction d'ETF, voilà. Donc, ça aussi, je voulais en venir, mais on parle aussi de fraction d'action. Fraction d'action, fraction d'ETF. En gros, on a vraiment des choses qui nous permettent de. Comment vous dire ça ? De limiter les investissements. Prenons le cas d'Apple. Apple est à 190$. Tout simplement, vous pouvez investir une somme comme 50 euros sur Apple et non pas mettre une somme entière qui est de 190$. Parce que souvent, quand on est sur PEA ou hors compte titre, ça malheureusement sur PEA, c'est pas encore disponible. Je sais que sur PEA, on peut que acheter des actions complètes, entières, et sur des fractions d'actions, on peut uniquement le faire à travers un CTO.
C'est bien ça. Une assurance vie aussi.
Assurance vie, ouais.
Okay. Et un PER aussi.
Ok.
Ça existe.
Ok. Avec le plan d'investissement programmé et tout ça, c'est vrai que c'est super intéressant. En gros, vous pouvez même programmer vos investissements sans même devoir y penser une seconde. Donc ça, c'est vraiment top et ça permet de créer une récurrence sur l'investissement et donc de faire fonctionner les intérêts composés. Alors, on va y venir, Mathieu, justement, parce que là, on parle un peu une autre langue. ETF, action, action à dividende, ETF vs action, on va y venir. parce qu'en gros, c'est ça bien maintenant qu'on explique qu'est-ce que c'est, quoi ça correspond et pourquoi, en fin de compte, il faut choisir son type d'actif par rapport à ses motivations, tu sais, comme on avait vu, par rapport aux objectifs de vie. Donc ETF, j'aimerais bien qu'on aille, tu vois, sur ETF, qu'est-ce que c'est et pourquoi est-ce qu'on doit choisir un ETF selon toi ?
Ok, alors un ETF, c'est barbare a priori, ça veut dire Exchange Traded Fund. Globalement, en français, ça veut dire un fonds négocié en bourse. Bon, on n'est pas, c'est pas non plus décrypté encore là, mais en fait, ce que c'est un panier d'actions qu'on va pouvoir acheter et vendre simplement en bourse. Donc, un panier d'actions. On parlait du S&P 500 par exemple. S&P 500, c'est quoi ? C'est l'indice phare aux États-Unis qui reprend les 500 des plus grosses capitalisations américaines. Et du coup, en achetant un ETF S&P 500, on va avoir dans son portefeuille. Donc, en achetant par exemple un ETF S&P 500, il y en a qui se trouvent à 20 euros, tu vois. Donc, en mettant 20 euros, on va se retrouver avec une ligne dans son portefeuille qui s'appellera ETF S&P 500. Et cette ligne, en fait, le sous-jacent, ce qu'il y a vraiment derrière, ça sera 500 actions. Donc, les 500 actions du S&P 500 avec, en commençant donc par Apple et les plus grosses capitalisations américaines, Apple, Tesla, Microsoft, Meta, ex-Facebook, etc. dedans. Et donc, en achetant simplement, ça s'achète vraiment instantanément si les marchés sont ouverts, on achète, on met 20 euros et d'un seul coup, on a 500 actions dans son portefeuille. Donc, ça permet de bien diversifier son portefeuille parce que dans ces 500 actions, ça va représenter un petit peu tous les secteurs d'activité. Donc ça, c'est super important parce que si tu investis uniquement sur le secteur de la santé, par exemple, et que le secteur de la santé se casse la figure, eh bien, ton portefeuille se casse aussi la figure. Là, si tu es bien diversifié, si la santé se casse la figure, tu as les autres secteurs à côté qui peuvent compenser cette perte. Et donc, c'est ça la diversification, la puissance de la diversification. Ça permet de lisser le risque. Et donc, tu es diversifié en termes de secteur, tu es diversifié parce que tu as 500 entreprises et pas 10 entreprises, parce que si tu as 10 entreprises et qu'une fait faillite, eh bien, tu perds 10% de ton portefeuille d'un seul coup. Alors qu'avec un ETF, si tu as une entreprise qui fait faillite sur 500, ben, ça ne va pas du tout se sentir. Et avec la volatilité des marchés, même journalière, ça va être complètement noyé, quoi.
Oui, tu veux dire que le risque, il est dilué de par la pondération à l'intérieur d'un ETF.
Voilà, de par la diversification à l'intérieur.
Parce qu'en gros, dans un ETF, le S&P 500, je crois que Apple, c'est 4 à 6%, ça dépend quel ETF, je crois que c'est 6% dans un ETF.
Ouais, c'est autour de ça, je crois, d'un ETF S&P 6 à 7 même. Donc ça, c'est la plus grosse capitalisation. Donc là, effectivement, des gens peuvent penser qu'un ETF S&P 500, c'est pas suffisant parce que si Apple faisait faillite, Bon, c'est quand même la plus grosse capitalisation au monde, mais enfin, c'est pas la plus grosse d'ailleurs, mais c'est la plus grosse capitalisation américaine. Si elle faisait faillite, bon, ça poserait de gros problèmes, j'imagine, dans toute l'économie, tout l'écosystème. Mais en tout cas, si Apple faisait faillite, effectivement, ça engendrerait 7% de pertes sur l'ETF. Donc, on peut encore plus diversifier avec des ETF qui sont encore plus diversifiés, qui peuvent avoir, au lieu de 500, qui peuvent avoir 1600 entreprises, 3000 entreprises pour certains. Le plus gros ETF, le plus diversifié, il a 9000 entreprises dans un seul ETF dans ton portefeuille, et tu as 9000 entreprises dans ton portefeuille, dans le sous-jacent. Quoi.
C'est le FTSE World, c'est pas ça où il y a le...
Celui-ci, dans le 9000, c'est le MSCI ACWI IMI.
IMI. Oui, d'accord. Ouais, parce qu'à pas confondre, parce que souvent on a tendance à dire que le plus gros ETF pour se diversifier, c'est le World, le MSCI World. Celui-ci est composé de 1600 entreprises, si je ne me trompe pas.
1600,
comparé à celui que tu me dis, plus de 9000 entreprises, il est beaucoup plus diversifié qu'un MSCI World. C'est vrai que là, il n'y a pas photo, quoi. C'est vrai que là, on est vraiment sur une très très bonne note. Ensuite, il y a aussi ce choix des ETF capitalisants et distribuants. On me pose beaucoup cette question, en fin de compte, qu'est-ce qu'il faut prendre pour le capitalisant ? Est-ce qu'il faut, c'est mieux de prendre un distribuant qui distribue des dividendes, ou est-ce que c'est mieux de prendre un capitalisant ? Selon toi, c'est quoi le mieux pour ceux qui débutent ?
Alors, tout dépend de à quel point tu es fiscalisé. Globalement, si tu es fiscalisé, donc si tu es un Français et que tu es sur compte titre, tu vas être fiscalisé à 30%. Donc vraiment, c'est sous-optimisé de prendre un ETF distribuant les dividendes. Dans ce cas-là, il vaut mieux prendre un capitalisant qui va capitaliser, qui va réinvestir pour toi les dividendes directement, sans que tu payes à ce moment-là, à chaque versement de dividendes, sans que tu payes donc les 30% de flat tax. Mais ça sera reporté à plus tard, et donc ça va accélérer tes intérêts composés. Donc c'est mieux les capitalisants. Et même si tu veux te verser une rente, c'est mieux les capitalisants, parce que c'est bien plus optimisé de se verser une rente via de la vente plutôt que via des dividendes. Fiscalement, c'est bien plus optimisé. Bon, voilà, c'est assez complexe. D'ailleurs, j'avais fait toute une vidéo à ce sujet. Ouais. C'est pas évident à comprendre au début, mais c'est plus optimisé les capitalisants. Et si t'es pas fiscalisé, par contre, psychologiquement, ça peut être plus intéressant de prendre un distribuant. Donc, je pense notamment à ceux qui investissent dans des assurances vie, dans des PER ou dans un PEA, ou ceux qui peuvent être dans des pays où il n'y a pas de fiscalité sur les dividendes. À ce moment-là, psychologiquement, c'est quand même intéressant de recevoir des dividendes tous les trimestres, par exemple, sur son compte. C'est rassurant.
C'est vrai qu'il y a ça aussi, ce choix entre ETF. Pour moi, l'ETF, je le vois vraiment comme une sorte, tu l'as dit très bien, en gros, c'est un peu un trésor que tu viens à chaque fois mettre du capital à chaque fois à l'intérieur, et en fin de compte ce trésor là il vient prendre de plus en plus de valeur, contrairement à un distribuant où en fin de compte c'est toi qui vas piocher à chaque fois un petit peu ces pièces d'or à l'intérieur de ton coffre, et en fin de compte tu vas essayer toi avec ces pièces là de le réinvestir toi-même en trouvant d'autres solutions, en réinvestissant sur d'autres actifs immobiliers, etc. Et donc là on arrive plus sur les actions, donc actions à dividendes ou actions de croissance ou actions de valeur. Bon, là on va rester sur les actions à dividendes, ça c'est un peu mon dada. Action à dividende, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand vous achetez une entreprise, donc que ce soit Apple, que ce soit Microsoft, que ce soit Total Energy ou que ce soit d'autres boîtes, peu importe, en fin de compte, cette entreprise va créer des bénéfices, va générer des sous tout simplement, et cette boîte va tout simplement vous reverser une partie de leurs bénéfices sous forme de dividendes. Et donc, il peut y avoir un rendement sur ce dividende à laquelle vous vous achetez. Par exemple, sur du Microsoft, vous avez 1,50%. Sur du Coca-Cola, vous avez autour de 3%. Et ce qui est intéressant avec ce rendement-là qui est pris à l'instant T, c'est qu'il peut augmenter en fonction du montant du dividende s'il est augmenté à l'avenir. Ça peut être intéressant. C'est comme sur l'immobilier, avec de l'immobilier qui augmente pour s'ajuster sur le prix de l'inflation. Donc le loyer va augmenter. Donc en fait, votre rendement augmente aussi en parallèle par rapport à la mise initiale que vous avez déposée. Ce qu'on appelle un rendement sur coût. Donc ce qui peut donner des rendements vraiment astronomiques si on trouve des bonnes entreprises. Si on prend sur du Lowe's par exemple, c'est du 13% par an au bout de 10 ans. Si vous avez acheté du Lowe's il y a 10 ans, c'est une entreprise, le roi Merlin américain, pareil sur Home Depot, etc. Vous avez du 14% au bout de 10 ans en automatique sans vendre. Donc c'est ça qui peut être utile. Mais par contre, là où c'est un peu néfaste, c'est que vous êtes imposé en fin de compte. Il y a bien sûr, il y a cette imposition de 30%. Mais sur cette imposition de 30%, vous avez au bout de 10 ans un rendement qui tombe chaque mois. Donc c'est un coût. Après, on y reviendra aussi justement. Écoute, on va y venir maintenant, si tu es d'accord avec moi. On va parler de quelle plateforme choisir, parce que là on a parlé du CTO, donc du compte titre, qui permet de diversifier sur plusieurs valeurs, notamment du monde entier, que ce soit américaine, bref, j'en passe, chinoise. Et on a aussi le PEA. Le PEA, c'est vraiment, moi je trouve, c'est là en ce moment, là je suis en train davantage du coup garnir mon PEA plutôt que le CTO. Le CTO, je crois que j'ai investi autour de 100 000. Et le PEA, là du coup, il est à 15 000, un truc comme ça. Donc là, j'ai envie de booster un peu plus mon PEA, à la fois pour me diversifier sur des valeurs qui sont des valeurs françaises qui sont excellentes. Et en plus de ça, bah, pour surtout créer cet avantage fiscal. Y a même des avantages fiscaux. Est-ce que tu peux nous citer un peu, Mathieu, ces différents avantages fiscaux sur le PEA ? Est-ce que tu l'utilises, toi, tout d'abord ?
Oui. Ouais, c'est mon enveloppe la plus utilisée à titre perso. Après, j'investis aussi en société, mais il n'y a pas le PEA sur la société. Le PEA, alors l'avantage fiscal le plus évident, c'est qu'au bout de 5 ans de détention de son PEA, si on n'a pas retiré avant, il ne faut pas retirer dans les 5 premières années, mais si au bout de 5 ans, on n'a pas retiré et voilà, on a gardé son PEA, on n'a plus d'impôt sur le revenu au bout de 5 ans sur le PEA. Ça veut dire que lorsqu'on va retirer de l'argent de son PEA, on ne paiera que les prélèvements sociaux qui sont actuellement à 17,2%. Donc, au lieu de payer 30%, on paye 17,2%. Et ça, bah, clairement, c'est un gain qui est significatif. Donc, pour un investisseur, ça peut être très avantageux si le PEA correspond aux actifs sur lesquels il a envie d'investir. Parce que bon, il y a des contraintes sur le PEA. Deuxième avantage très 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 intéressant et je pense que c'est le plus méconnu, c'est que lorsqu'on touche des dividendes sur le PEA, ils ne sont pas imposés. On est imposé que quand on retire de l'argent, contrairement au compte titre où à chaque fois qu'on va toucher des dividendes, c'est imposé directement. Et c'est quand même très dommageable si on a, je sais pas moi, un portefeuille à dividendes sur compte titre qui nous sort un yield, un rendement de 5% par an. Eh bien, 30% de 5%, ça fait 1,5% qui partent aux impôts de l'ensemble de notre portefeuille quand même. Donc, c'est quand même hyper significatif. C'est-à-dire, si j'ai 100 000 euros, 1,5% de 100 000 euros, ça fait 1 500 euros qui partent aux impôts tous les ans. Donc,
là, je me sens visé, là, d'un coup.
Alors que notre portefeuille, en plus, perd de l'argent. On a un portefeuille de 100 000 euros, on a 5% de dividendes. Mais le prix des actions a diminué. Comme on a quand même touché les dividendes, on est quand même imposé sur compte titre. Donc on peut perdre de l'argent d'un côté et payer encore 1 500 de l'autre à cause des impôts. Donc ça, c'est quand même très dommageable sur le compte titre. Et sur le PEA, comme eh bien, c'est une enveloppe capitalisante, il n'y a pas ça. Et ça, c'est quand même super. Pareil au niveau de la vente. Donc si au bout de 5 ans, enfin même avant hein, d'ailleurs, mais sur PEA, si on fait une vente, par exemple, on est plus satisfait, je ne sais pas, j'ai acheté des actions Air Liquide et finalement, je veux vendre pour acheter du LVMH, je dis n'importe quoi. Sur compte titre, si on fait ça, si sur nos actions Air Liquide, on avait de la plus-value, on va être imposé sur la plus-value. Alors que sur PEA, si on vend nos actions Air Liquide avec la plus-value pour racheter du LVMH au sein du PEA, on n'est pas imposé parce qu'on est imposé sur PEA que lors du retrait. Et donc ça, l'effet un petit peu vase clos, l'effet enveloppe capitalisante, très très intéressant pour tous ceux qui font des mouvements ou qui touchent des dividendes en bourse.
Ce qui est intéressant aussi, j'aimerais rejoindre aussi par rapport au yield, c'est que votre yield en fait est davantage protégé sur un PEA. Parce qu'il faut savoir que des valeurs comme LVMH qui versent des dividendes, ok certes c'est 1,5 là à l'instant T, en gros si vous visez vraiment l'instant T c'est pas très bon, mais comme je l'ai dit vous avez un rendement sur coût et vu que ce rendement sur coût il évolue d'année en année, bah, en fait au bout de 20 ans vous serez beaucoup plus gagnant que d'avoir sur un CTO avec une valeur comme par exemple, je sais pas, comme j'ai dit, avec Home Depot. Mais par contre, il y a un truc aussi à bien différencier parce qu'on va me dire, mais du coup, pourquoi investir sur CTO ? Sur CTO, ce qui est intéressant, c'est avec la performance. La performance, Peter Lynch avait fait des bouquins aussi, tu sais, au niveau des 10 baggers, si tu connais un peu ce terme-là. Les entreprises américaines sont là où il y a le plus de grosses performances sur des entreprises. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup plus régulièrement des entreprises qui font x10, qui font x100 sur les entreprises américaines que sur d'autres entreprises qu'on peut voir européennes ou autres. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il a constaté. En termes de chiffres et de données, d'ailleurs, il y a un très bon bouquin, c'est Comment battre Wall Street, un truc comme ça, je ne me rappelle plus trop de son titre, mais c'est vraiment extraordinaire, moi j'adore son bouquin, je l'ai vu. Et donc voilà, le CTO, vous avez la performance, mais par contre, entre contrepartie, vous avez l'imposition, et ça, c'est vrai que c'est à prendre en compte. Tu veux rajouter quelque chose, Mathieu, peut-être ?
Ouais, non, c'était simplement pour dire que, en fait, voilà, sur PEA, on peut investir que sur des actions européennes.
Oui, par contre.
Donc ça, c'est la contrainte. On peut investir sur des ETF et des ETF, par contre, qui peuvent être à réplication synthétique. Je crois qu'on en avait parlé déjà sur ta chaîne, mais ça permet donc d'investir sur des ETF style S&P 500, qui sont des actions américaines, mais dans un PEA. Donc ça, c'est quand même super avantageux. Tu te dis, je suis dans un PEA, normalement, je dois avoir que des actions européennes, mais je peux avoir des ETF qui investissent sur des actions américaines. Et après, je te rejoins. Par contre, si on veut faire du stock picking sur des actions américaines, ben, ça ne sera pas possible sur PEA. Donc là, il faudra se réfugier sur un compte titre. Mais je vois beaucoup de gens sur YouTube ou ailleurs, sur Twitter, etc., dire que le compte titre est mieux que le PEA. Factuellement, non. C'est juste, si tu veux investir sur les actions européennes, c'est mieux sur PEA, c'est indéniable. Par contre, effectivement, il y a une limite d'investissement. Tu ne peux pas avoir tout sur PEA. Et donc, oui, si tu veux investir sur des entreprises américaines, eh bien oui, là, tu ne peux pas sur le PEA tout simplement. Donc, c'est mieux sur le compte titre. Et après, bon, il y a un aspect aussi sur la transmission où ça peut être un peu plus optimisé sur la donation, le compte titre. Bon, ça, c'est autre chose. Mais juste, voilà, s'il n'y a pas de sujet au niveau de la transmission de la donation, ben un PEA, si on investit sur les actions européennes, autant profiter du PEA plutôt qu'aller sur compte titre.
Alors, aussi, il y a autre chose qui est un différencier, c'est, ça peut être embêtant. Sur PEA, on a un plafond, 150 000 de versement. Ça aussi, parce qu'il y en a beaucoup, comment je fais Sony, mon plafond est 150 000 euros, est-ce que ça vaut le coup d'investir sur un PEA? Alors, vous pouvez, en fin de compte, avoir un PEA, mais de versement, en fin de compte, le plafond. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez mis 150 000 euros d'espèces, vous pouvez avoir des plus-values qui dépassent largement ça. Et vous pouvez recevoir aussi des dividendes qui dépassent largement ce plafond-là. Et en fin de compte, bah, vous pouvez vous rémunérer par rapport aux gains que vous avez générés bah, ces années précédentes, quoi. Donc en gros, je sais pas moi, vous arrivez à générer 1 000 euros de dividendes grâce à votre PEA, bah, vous pouvez retirer bah, cette poche-là et puis continuer à faire travailler vos 150 000. Donc ça peut être super utile. Voilà. En plus de ça, il y aura juste des 17,2 de prélèvements sociaux comparé au CTO où c'est 30%. Alors après, c'est pas tout le temps 30%. On peut aussi opter pour le barème progressif sur le CTO. Oui. Ça dépend des tranches. Ceux qui ne payent pas trop d'impôts, c'est mieux d'être. Si vous payez 0 euros d'impôts, c'est mieux d'opter pour le barème progressif. Après, c'est à vous selon vos situations personnelles. Donc, on a à peu près tout vu au niveau des PEA, CTO. Il y a aussi l'assurance vie, Robot Advisor. On ne va pas trop parler de ça. Robot Advisor, c'est tout simplement une entité, une société qui va gérer ça, qui va gérer des titres à ta place.
Qui va utiliser des ETF d'ailleurs, et qui va utiliser l'assurance vie. Mais après, bon, l'assurance vie, ça peut être aussi utilisé hors robot advisor, ça peut être en gestion libre comme un PEA ou un compte titre. Assurance vie, bah, ça peut être très avantageux aussi fiscalement. C'est très avantageux pour la transmission de patrimoine. C'est clairement un gros levier quand il y a un sujet là-dessus. Il y a le PER aussi qui peut être très intéressant pour certaines personnes. Bon, après, il y a des fois des gens qui ont des PE, des plans épargne entreprise, etc. Voilà. Après, on a vu les principales enveloppes, c'est ça. Ouais.
Ouais, donc, les plus simples, si vous voulez débuter. Alors, à noter que pour débuter, le PEA, c'est peut-être plus compliqué. Parce que du coup, si vous faites du stock picking, il faut savoir qu'il n'y a pas de fraction d'action sur le PEA. Plus compliqué que sur un CTO, vous pouvez le faire. Mais par contre, sur une assurance vie, vous pouvez aussi le faire à travers des ETF, etc. Mais il y a des produits qui permettent donc de ne pas acheter trop cher, comme l'ETF du S&P 500, je crois qu'il se trouve autour de 34 euros. Donc si vous voulez commencer à diversifier sur les 500 plus grandes entreprises américaines, bah, il y a largement de quoi faire, quoi. Et maintenant, oui Mathieu, tu voulais rajouter quelque chose peut-être ?
Non, oui, pour le gars qui veut vraiment débuter très facile et il verra plus tard s'il ouvre un PEA ou quoi. Clairement, un petit compte titre, un néo-courtier, il met 10 euros, fraction d'action, fraction d'ETF. Voilà, il n'y a rien de plus simple, c'est sûr. Tout se fait sur mobile, il y a un gros bouton vert acheter. Bon, aujourd'hui, c'est très très facile. C'est pas comme il y a 30 ans, fallait soit appeler, rien qu'appeler, ça coûtait 10 balles, passer l'ordre au téléphone, ou fallait se rendre à la corbeille, à la criée. Enfin, c'était vraiment tout autre chose. Là aujourd'hui, c'est quand même très simple.
Alors, qui dit simple, Mathieu, on va aller sur un autre sujet. Qui dit simple dit erreur. Parce que souvent, plus c'est simple d'accessibilité, plus il y a d'erreurs qui sont commises par les débutants. J'aimerais qu'on aille sur nos erreurs qu'on a fait étant débutant. Est-ce que tu as une erreur, deux, trois à raconter très très simple pour que les gens puissent s'identifier et éviter de faire les mêmes erreurs? Moi, j'en ai noté trois chez moi que j'ai fait. Je ne sais pas si toi, tu en as certaines qui t'ont marqué.
Moi, j'ai commencé. On m'a initié à l'investissement très jeune, parce que donc moi j'ai eu la chance en fait d'avoir grande chance d'avoir une éducation financière quand j'étais jeune, des parents qui ont investi en immobilier, mon père qui bourse, il coûtait un petit peu, mais qui m'a ouvert une assurance vie, qui m'a ouvert un compte titre. J'étais mineur, c'était en 2003 mon premier compte titre. J'ai retrouvé tous les documents parce qu'on garde tout dans des classeurs, etc. Chose que je fais maintenant aussi, voilà, comme mon père, je garde tous mes papiers dans les classeurs. Bref, je divague, mais tout ça pour dire que voilà, j'ai commencé à investir jeune, et les premières erreurs, c'est très classique, mais c'est que on suivait les recommandations du banquier. C'était des fonds qui étaient chers, donc beaucoup de frais. Qui dit beaucoup de frais dit intérêt composé limité, freiné. On avait des, tu vois, j'avais un profil jeune, dynamique, autant placé sur des actions. Pourtant, on m'avait mis sur des obligations aussi. On m'avait mis sur des choses qui étaient défensives. On m'avait mis des choses pas forcément optimisées, pas bien diversifiées. Et surtout les frais. Surtout les frais, ça, c'est vraiment, ça bouffe la performance, on ne s'en rend pas compte. Mais pour donner un ordre d'idée, si demain vous investissez par exemple 10 000 euros avec votre banquier qui va vous conseiller un fonds qui a 2% de frais par an, 2% de frais par an, ça paraît rien. En fait, sur 30-35 ans d'investissement, ça va vous prendre la moitié de la performance. 50% de la performance. Donc évidemment, le banquier, il ne va pas vous dire les frais, c'est 50% au bout de 30 ans. Non, il ne va pas vous l'annoncer comme ça. Il va vous dire, il ne va rien vous dire peut-être d'ailleurs, mais s'il vous précise les frais, il va vous dire 2% par an. Ça paraît peu, 2% par an. En fait, c'est énorme parce que si la performance des actions en bourse est 10% par an, prendre 2%, c'est prendre déjà 20% de la performance. 2% sur 10%, c'est 20%. Donc, c'est 20% de frais en fait. On ne se rend pas compte, mais c'est 20% tous les ans qui prend des gains. Voilà, donc ça fait des sommes astronomiques sur le long terme. Et donc ça, moi, je dirais, c'est la principale erreur que j'ai faite au début. Avec, je laissais courir des fonds. C'était la grosse erreur. Après j'ai fait du stock picking. Moi aussi, j'ai fait des actions à dividendes.
Tu vois ça comme une erreur?
Non. Je vais venir sur l'erreur, mais j'ai fait des actions à dividendes, j'ai fait du total, j'ai fait des trucs, etc. Et j'ai fait ça sur compte titre. Donc ça, c'était une erreur. C'est l'erreur qu'on vient de dire, c'est que j'avais typiquement du total sur compte titre. Hyper dommage d'être fiscalisé alors qu'on peut mettre ça sur PEA. Tu vois, voilà, c'est ce genre d'erreur que j'ai faite au début.
Ouais. Ouais, ça aussi, j'ai beaucoup d'abonnés qui font cette erreur-là. Ils me font voir leur portefeuille. Bon, je suis pas conseiller financier, mais moi, ils me font voir. Voilà. Je fais, mais il n'y a pas un problème là? Je fais, bah non, qu'est-ce qu'il y a? Bah, t'as acheté du L'Oréal sur ton compte titre. Ouais. Bah, ou du Air Liquide. Tu vois, je vois Air Liquide et tout sur compte titre. Je fais, bah non, il est où le problème? Sur PEA, c'est plus optimisé fiscalement, quoi. Donc voilà, t'as ça. Après, tu fais ce que tu veux, mais en gros, tu peux économiser. T'as davantage de bonus. De gains en tout cas si tu mettais ça sur ton PEA. Et c'est vrai que c'est une erreur qui revient de manière assez récurrente. Et on va aller sur les miennes, parce que moi aussi, hein, en plus je suis toujours assujetti un petit peu à ces émotions-là, parce que c'est surtout des erreurs plutôt psychologiques. Je trouve que la bourse, c'est vraiment, pour moi, c'est 90% des gains, je trouve, la psychologie. La première erreur, moi, c'est d'acheter une action, tu sais, un peu à la mode. C'est un peu à la hype du moment, c'est-à-dire, je vais acheter du Nvidia parce que là, il y a l'intelligence artificielle, il faut y aller. Alors, j'ai pas acheté du Nvidia, mais bon, il y a eu d'autres exemples auparavant. Et ça, c'est un coupe-gorge toujours. Parce qu'en gros, vous achetez premièrement une action qui est trop surévaluée, donc qui serait prêt à corriger en fin de compte à l'avenir lorsque les investisseurs auront suffisamment généré en gros de plus-value. Ça, c'est le concept, tu sais, de...
Retour à la moyenne.
De retour à la moyenne, de dumb money, de smart money. Le dumb money qui rentre toujours en retard, et puis le smart money qui est bien en avance de nous et qui prennent des plus-values bien avant nous et qui revendent au meilleur moment, et puis nous, on rentre quand tout le monde en parle. Et donc c'est à ces moments-là aussi qu'on peut se planter et qu'on peut vraiment réaliser de grosses plus-values, parce que si on rentre au plus haut mais ensuite que ça corrige, eh bien on se prend une méchante correction, quoi, en pleine face. Donc ouais, c'est surtout ce concept-là de FOMO. Il y a eu beaucoup de choses aussi comme ça, tu sais, comme les IPO, tu sais, les entrées en bourse. On a eu du Airbnb, on a eu du Coinbase, on a eu du Robinhood, et toutes ces entreprises là, quand c'est rentré en bourse, ok, ça fait une petite verticale, et ensuite tout de suite, quoi, ça a corrigé vers le bas. Et ça, j'ai l'impression que c'est toujours la même chose, que le marché réagit toujours par effet d'euphorie, et ensuite que ça se calme, que la hype se calme. Et quand ça se calme, bah, en fin de compte, on se rend compte réellement ce qu'il y a derrière. On commence à creuser un peu les fondamentaux. Bah, en fin de compte, les bénéfices, il n'y en a pas tant que ça. En termes de retour sur capitaux propres, t'as que dalle. Ah, tu fais, bah, en fin de compte, cette entreprise, elle n'est pas folle. Bah ouais, mais ce qui a provoqué l'engouement, bah c'est ça. Et on peut constater pareil sur Nvidia, tu vois, Nvidia là, ce qui l'a fait pousser vers le haut, c'est la croyance des investisseurs envers l'intelligence artificielle. Nvidia, quand tu payes 200 fois ses bénéfices, donc avec un PER de 200, c'est énorme quoi. T'es prêt à payer 200 fois l'entreprise par rapport à ses bénéfices. Enfin, c'est juste fou. Et souvent, on a tendance à dire qu'il faut attendre tant d'années avant de reconstruire pour atteindre de rentabiliser en gros son investissement. Donc 200 ans, je trouve que ça fait un peu beaucoup quoi, par rapport à la moyenne du PER. Mais voilà, donc il y a cette première erreur-là. Et ensuite, il y a la deuxième erreur aussi que j'avais fait part là au début. C'est le fait de checker son portable toutes les 10 secondes. Tu sais.
Ah oui.
Ça, c'est quand on débute, c'est tout le temps comme ça. Moi, je me rappellerai toujours, j'étais sur mon compte titre, j'avais acheté du Coca-Cola, un truc comme ça. Et j'étais vachement stressé. Tu vois, je me disais, mais attends, mon argent, est-ce qu'il va être fructifié? Est-ce que ça va aller et tout? Et j'actualisais tout le temps. Et je voyais, des fois, ça baissait de 2%. Donc, quand tu mets 1000, et bah, tu perds 20 euros, quoi. Il suffit que l'action se plante un petit peu de 10%, tu perds 100 euros. Enfin voilà, ça peut te faute un peu le track. Des fois, on a des volatilités extrêmes comme ça par rapport à un événement. On a eu de grosses claques. Hein. On a eu de grosses claques. Notamment, je cherche là actuellement une entreprise qui a fortement corrigé. Par exemple, on a. J'ai perdu le nom de l'entreprise. Bon, bref. Ça avait monté de 10%. Bah tiens, Apple. Apple, ça avait pris tout de suite. Non, Microsoft. Voilà, c'est bon, j'ai retrouvé. Microsoft, ça avait monté sans cesse là en 2023. Ça avait monté. Et là, quelques heures plus tard, enfin, il y a eu un événement qui a fait que ça a corrigé et ça a perdu 6%. Sauf que la personne qui investit, t'imagines, 1000 euros sur du Microsoft et qui connaît rien en bourse et qui perd 6% tout de suite, il voit qu'il a perdu 60 euros tout de suite. Il voit une ligne rouge. Il va se dire, mais la bourse, c'est du n'importe quoi en fait. Moi, je me barre d'ici. Tu vois, j'ai pas envie de faire ça. Et donc voilà, c'est toujours frustrant d'essayer d'évaluer, de pas être trop assujetti à ses émotions. Et ça, je pense que ça passe tout d'abord par se former, tout d'abord psychologiquement, vraiment. Et donc ouais, la formation psychologique, ça passe aussi avant tout voilà, sur la gestion de ses émotions, parce que quand on voit des choses comme ça, il faut vraiment 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 tenir. Et ensuite, le dernier pour moi, c'est d'éviter d'écouter les influenceurs, c'est les influenceurs préférés quoi. C'est à dire qu'on peut avoir ce qu'on appelle un biais de learning. C'est-à-dire, tu sais, un biais du moutonnier, c'est-à-dire qu'on va suivre une masse parce que tout le monde y va. Et en fin de compte, à la fin, on se rend compte que, bah, comme pareil, en fin de compte, il n'y a pas de fondamentaux. On a suivi un peu à l'aveugle ce qui était à la mode. Et donc, ça casse, quoi. Il y a eu un peu la mode des SPAC. Ça, on en avait déjà parlé. Ça avait monté sur du tout et n'importe quoi. Il n'y avait aucune valeur intrinsèque de l'entreprise. Quand je parle de valeur intrinsèque, c'est chiffre d'affaires, rentabilité, les marges nettes, etc. Il n'y avait rien du tout. Il n'y avait pas raison pour que cette entreprise monte. Et ça s'est chuté derrière. Donc il y a vraiment cet aspect de valeur réelle qui est importante selon moi. Je pense que tu es d'accord.
Non, mais complètement aligné sur tout ce que tu as dit globalement.
Sauf sur les dividendes. Alors ensuite, on va aller sur les questions des abonnés. J'avais posé une question à mes abonnés qui nous écoutent sur Instagram. Donc il y avait plusieurs questions. La première... on va commencer par toi parce que sinon je vais parler un peu trop longtemps. C'est quel ETF avoir dans un PEA? Justement parce qu'on parle de tout ça. Et quel ETF toi tu privilégierais si tu veux en choisir un seul sur PEA?
Un seul, un seul. Ce qu'on disait tout à l'heure, MSCI World, c'est un ETF, c'est peut-être un des ETF les plus larges qui est éligible au PEA. Éligible, parce que du coup, on a 200 à peu près, 230 il me semble, ETF éligibles au PEA. Donc on a le choix entre ces 230 ETF, c'est déjà beaucoup. Mais bon, quand on sait qu'il y a à peu près 10 000 ETF qui existent dans le monde entier, on comprend que bon, c'est qu'une petite portion en fait des ETF qui existent. Donc ouais, dans ces ETF, dans ces 200 ETF sur PEA, globalement, un très bon ETF pour commencer, c'est un ETF MSCI World qui va investir dans 1600 entreprises dans 23 pays développés. Donc on va avoir États-Unis, Europe, Canada, Australie, Japon, voilà, pays développés, 23 pays développés. Donc ça sera déjà une très bonne option pour débuter. Ouais.
C'est super. Alors ensuite, il y avait une autre question. Alors comment estimer entre le montant de son épargne de précaution, en gros le montant, ouais. Alors ça, bah, du coup, on a déjà répondu à travers ce podcast, je pense. C'est le fait de construire un permis d'investir, c'est-à-dire voilà, on met tant de mois d'avance sur son épargne, enfin sur son livret A ou sur un LEP. On met tant, 1 à 2 mois de salaire en avance, 3 à 4 mois de salaire en avance, et puis pourquoi pas un peu plus. Donc voilà, et puis il y a une autre question, alors peut-être là je vais y répondre, c'est les, bon, tu peux peut-être répondre avec moi aussi Mathieu, c'est les actions au porteur et au nominatif. Il y en a certains qui me demandent c'est quoi le mieux, quels sont les avantages. Alors il y a deux choses, au nominatif, enfin au porteur plutôt, on va commencer le porteur, c'est le plus basique en fin de compte, c'est sans doute, nous on est tous au nominatif.
C'est le par défaut. Ouais.
C'est le par défaut, c'est-à-dire qu'on va acheter une action en bourse, que ce soit sur ton PEA, sur un compte titre, et en fin de compte vous détenez, en fin de compte c'est la société de gestion, enfin c'est le courtier, c'est la banque, ouais, qui va détenir vos actions pour vous, il n'y a pas votre nom. Tout simplement.
C'est le dépositaire.
C'est le dépositaire, ouais. Voilà. Et il y a ceux, en fin de compte, vous avez ce qu'on appelle aussi au porteur, enfin non, au nominatif, où du coup là, vous avez bien le nom de l'entreprise, qui est, enfin le nom plutôt de vous, votre nom, prénom et nom, qui est enregistré dans le cahier de l'entreprise. Donc là, vous recevez les infos, vous recevez tout. Et ce qui est intéressant avec le nominatif, c'est que vous pouvez avoir des bonus supplémentaires sur vos actions. Il y a Air Liquide et il y a L'Oréal. Air Liquide, on va prendre l'exemple, si vous avez 10 actions au minimum et que vous les avez pendant 2 ans au nominatif, vous avez 10% d'actions supplémentaires, je ne suis pas fan, et vous avez par contre 10% de dividendes en plus. Donc ce qui peut être pas négligeable. Sur L'Oréal, c'est juste 10% de dividendes en plus supplémentaires. Enfin 10% par rapport du montant. Par exemple, si vous avez 6 euros de dividendes, vous recevez, je crois que vous avez marqué 6,60. En gros, il y a une majoration en plus. Donc ça, c'est cool. Vous recevez un bonus de dividendes. Et j'ai pas aimé, en fin de compte, tu sais, le 10% de dividendes, le 10% d'actions supplémentaires qu'on te donne, parce qu'en fin de compte, ça demande à l'entreprise d'émettre davantage d'actions en circulation. Et moi, ça, j'aime pas. Je préfère des entreprises, tu vois, où il y a moins en moins d'actions en circulation, qui permettent en gros de préserver la valeur de nos actions et voir qui diminue dans le temps. S'il y a moins d'actions en circulation dans le temps, bah, ça augmente la valeur de l'entreprise et ça permet de voir, il y a eu très régulièrement des montées spectaculaires lorsqu'il y a eu des rachats d'actions, il y a eu des données sur la S&P 500 qui le montrent. Et donc c'est vachement intéressant ça, je trouve. Je sais pas ce que t'en penses toi.
Et les dividendes, pourtant ça fait aussi baisser la valeur des actions, mais bon c'était non mais on va passer des minutes.
Alors quand même pour préciser, parce que Mathieu a tout à fait raison, c'est qu'en fait lorsqu'un dividende est versé à l'instant T, il y a une déduction du prix, une déduction du prix sur le montant du dividende, c'est bien ça ?
C'est-à-dire que le prix baisse du montant du dividende. C'est un détachement, on appelle le dividende lorsqu'il est versé, on appelle ça le détachement du dividende, on le détache du prix.
Voilà. Donc en partie, c'est neutre, mais là on n'est pas d'accord avec Mathieu, c'est que oui, sur l'instant T, oui, ça n'enrichit pas à l'instant T l'actionnaire, mais sur le long terme, oui, parce que vous avez, alors c'est pas le dividende en lui-même, mais par contre c'est avec la croissance de l'entreprise, avec sa rentabilité, qui permet donc d'augmenter le dividende au fur et à mesure, et donc là oui, d'enrichir l'actionnaire. Si par exemple vous prenez, là où je suis totalement d'accord avec toi, vous prenez du Orange, c'est de la merde, voilà, là vous enrichissez pas, parce qu'en gros le cours de l'action ne monte pas et le montant du dividende est juste redistribué, donc en gros ça stagne en fin de compte, vous avez pas vraiment d'évolution, à part que vous recevez de l'argent, ce que vous avez déposé, mais en gros qui est déduit automatiquement. Et quand on voit le cours d'Orange, c'est juste catastrophique quoi, et je préfère voir une courbe de LVMH sur le long terme, de Air Liquide qui savent augmenter leurs dividendes au fur et à mesure, qui permet là d'enrichir l'actionnaire, parce que par rapport au montant déposé arrivera au final un rendement sur coût beaucoup plus élevé, donc qui permet d'enrichir l'actionnaire. C'est comme l'immobilier qui prend de la valeur, je trouve que c'est un parallèle aussi qui est sympa.
Alors voilà, c'est juste, enfin moi je suis pas du tout anti-dividende, hein. C'est juste que il faut remettre les choses dans le contexte et dire, il faut bien dire aux gens quand même que le dividende, c'est qu'une partie de l'équation, et que l'équation complète, c'est comme tu l'as très justement dit, c'est variation du prix de l'action plus les dividendes qu'on reçoit. Et si tu fais plus 10% de dividendes, mais de l'autre côté tu fais moins 10% en prix de l'action, t'as rien gagné. Et effectivement, un bel exemple pour ça, une belle illustration, c'est Orange. Et de l'autre côté, tu peux avoir aussi des entreprises qui, par exemple Amazon, qui n'ont jamais versé de dividendes, mais qui ont eu un cours complètement exponentiel. Et là, l'équation, c'est 0% en dividendes, mais une grosse augmentation du prix de la part. Et évidemment aussi, ce qu'on recherche peut-être tous, c'est 10% de dividendes et 10% d'augmentation du prix de la part. Tu gagnes sur tous les tableaux.
Ça, je suis entièrement d'accord.
Voilà, c'est juste le fait de dire, vous avez gagné dividendes, ok, mais qu'est-ce que fait vos actions dans le même temps ? Est-ce qu'elles baissent ? Est-ce qu'elles augmentent ? Et si tu as gagné 1 000 euros de dividendes, peut-être que tu as t'as perdu 1000 euros de l'autre côté, donc en fait t'as rien gagné. Donc ça, faut faire attention à ceux qui vous montrent les dividendes, j'ai gagné tant ce mois-ci, peut-être qu'il a perdu autant de l'autre côté, donc c'est un peu faussé le... Donc voilà, j'aime bien prendre toute l'équation, donc variation du prix plus dividende.
C'est ça. De toute façon, moi j'ai toujours pensé comme ça, quand j'analyse une entreprise, le dividende, il est toujours à la fin. C'est-à-dire que j'aime bien, les limites, tu vois, j'analyse les fondamentaux, c'est-à-dire que je regarde les marges nettes, je regarde les bénéfices, je regarde le cash flow, je regarde les dettes, la solvabilité. Et ensuite, je me dis, ok, le dividende, il est de combien ? Par rapport à même tout ce que j'ai regardé en amont, je sais si le dividende va être merdique ou non. Et ça, ça me voit dur. Et de toute façon, quand tu vois une petite marge, tu dis l'entreprise va pas tellement augmenter son dividende parce qu'elle galère de plus en plus en fin de compte à réaliser des marges, donc des bénéfices en clair. Et donc tu dis, bah, ça va pas être ouf pour nous à l'avenir si les marges sont toutes petites. Donc moi, je préfère des entreprises qui ont des grosses marges. Tu dis Novo Nordisk. Novo Nordisk, c'est titanesque. C'est des marges à plus de 50%, hein, des retours sur capitaux propres sur plus de 5 ans en plus, hein, historiquement, plus de 70% de retours sur capitaux propres. C'est indécent, cette boîte, c'est ce qu'elle fait. Bon, bref, là, j'ai déjà révélé une partie. On était à combien ? Une, deux, trois. Ensuite, quatrième question, faut-il choisir des actions à dividendes, à haut rendement ou haute rentabilité ?
Alors, on en a un peu parlé. Ouais.
Là, du coup, on a déjà répondu.
C'est juste sur ça. J'en parlais avec William Higgins, qui est le plus grand, enfin le meilleur gérant français sur les 30 dernières années. Et c'est ce que montre aussi What Works on Wall Street. C'est un super livre. Bon, c'est que des graphiques et des tableaux. Ça fait 1000 pages, je crois, le livre. Donc, c'est une revue complète de données financières et d'analyses financières qui explique très bien que, comme tu le dis justement, le dividende, c'est un mauvais critère de stock picking. C'est-à-dire qu'il faut regarder bien plus... la qualité de l'entreprise, la rentabilité des capitaux engagés, l'aspect aussi value, combien coûte l'entreprise, les ratios, etc. Et là où le dividende est un mauvais indicateur de la valeur intrinsèque de l'entreprise. Donc tu as raison, je suis complètement d'accord sur ça, de regarder peut-être le dividende en dernier, en mode c'est le petit bonus psychologique, entre guillemets.
Ouais. Ouais, je suis entièrement d'accord avec ça. C'est pour moi une entreprise qui, de toute façon, on le voit même sur l'historique du dividende, une entreprise qui fait ça avec son dividende, qui c'est yo-yo, tu te dis, attends, il y a un problème quelque part, c'est que c'est mal maîtrisé, il y a une gestion de trésorerie qui est mal employée. Et moi, je préfère vraiment regarder toute cette composante rentabilité pour vraiment que l'entreprise puisse compound, c'est-à-dire créer des intérêts composés sur ce qu'elle a généré. Parce que même ça fonctionne en fin de compte, sur le chiffre d'affaires. Plus elle réalise de bénéfices, plus en plus elle peut en générer si la rentabilité est bonne. Parce qu'il y a des indicateurs, le ROE, c'est comment est utilisé l'argent qui est apporté par les actionnaires. Si le ROE, il est faible, il est pourri, tu peux te dire, en fin de compte, l'entreprise aura de moins en moins possibilité de compound, donc en fait de créer des intérêts composés sur ses bénéfices. C'était Peter Sellern, le livre, j'ai oublié son nom. Peter Sellern, vous allez voir... Il a créé, je crois, Seuls les meilleurs gagnent en bourse. Et il disait justement que les entreprises qui arrivaient avec de gros ROE, de gros ROCE sur les capitaux employés, etc., c'était des entreprises qui étaient capables de compound, de créer des intérêts composés beaucoup plus forts que les autres. Donc c'est pour ça que moi, marge nette et ROE, c'est limite, et ROCE, c'est mes critères que j'utilise le plus actuellement. C'est vraiment ce que je recherche parce que pour moi, c'est gage d'avenir. Et justement, du coup, on a répondu à la cinquième question. C'était quels étaient vos critères utilisés pour choisir. Justement, non, j'ai parlé d'action, mais toi, ETF, comment est-ce que tu analyses un ETF ?
ETF, alors, je dirais le premier critère, évidemment, c'est l'indice. Quel indice on veut ? Tu vois, ça n'a rien à voir entre investir sur un ETF S&P 500 et un ETF, chinois sur technologie chinoise, tu vois. Voilà, tu vas avoir des performances qui vont être complètement différentes. Donc, le premier critère, c'est quel indice on veut avoir, un indice large, diversifié, entreprise américaine, chinoise, voilà, qu'est-ce qu'on veut, obligations, hein. On a des ETF sur des obligations, on a des ETF sur des cryptos, on a beaucoup de choses en ETF. Deuxième chose, je dirais, c'est regarder quand même aussi l'émetteur. L'émetteur, donc quand même la réputation de l'émetteur. On ne va pas choisir en général des émetteurs complètement nouveaux ou assez exotique qu'on connaît pas, etc.
Émetteur, je te coupe, c'est Amundi, Lyxor, X-Tracker, Vanguard,
iShares, SPDR, voilà, il y en a plein. Ça, c'est les plus connus. Donc là, on a cité plutôt des bons, très bons émetteurs. Ensuite, on peut regarder la tracking différence. Ça, c'est quand même très important à regarder. Mmh. C'est à quel point l'indice est bien répliqué par l'ETF. Plutôt à quel point l'ETF arrive à bien répliquer l'indice. Et donc, par exemple, un ETF S&P 500, est-ce qu'il arrive à bien suivre l'indice S&P 500? Est-ce qu'on arrive à avoir vraiment la performance du S&P 500 ou pas sur le long terme? Donc ça, c'est la tracking différence où on va globalement juste comparer les deux performances. Et on a des ETF qui ont des réplications telles qu'ils arrivent même à gommer leurs frais. Donc on croit que… Alors déjà, les ETF, c'est très peu cher. En termes de frais, c'est très optimisé. Sur un ETF S&P 500, on peut avoir 0,15% par an, très faible. Mais on a même des ETF qui réussissent à faire mieux que l'indice. Donc, que l'indice net de fiscalité. Donc, on pense payer 0,15, mais en fait, comme ils font des optimisations à l'intérieur, ben, ces frais, ils sont même un petit peu gommés. Et même, on a une légère surperformance. Donc, ça, c'est un élément important à regarder. Bon, voilà, ETF, il y a d'autres éléments à regarder. On pourrait quand même aussi regarder les frais, même si c'est aussi compris dans la tracking différence, puisque les frais sont ponctionnés directement de la performance. On pourrait regarder l'encours sous gestion, on pourrait regarder pas mal de choses à Tranquil Error, pourquoi pas. Est-ce qu'il arrive à… On pourrait regarder plein de choses sur ça.
Parce qu'il y a aussi peut-être un ETF auquel il faudrait faire attention. Tu m'arrêtes si je me trompe, Mathieu. C'est un ETF que je parle régulièrement et en fin de compte qu'on m'a aussi souligné en question. Alors, je ne l'ai pas noté en question parce que je ne voulais pas en parler. Bon, on va en parler quand même du coup. C'est sur l'ETF Leverage. Ces ETF-là, alors c'est pour ça qu'il faut faire très attention aux ETF que vous sélectionnez. Les ETF leveragés, il y a marqué x2 souvent. Et en fin de compte, ça, cet ETF-là, c'est comme s'il était boosté aux hormones. C'est-à-dire que vous avez, quand vous prenez 5% sur cet ETF-là, vous gagnez en fin de compte x2. Donc en fait, ça fait 10% de gain. En fin de compte, il y a un effet de levier sur l'ETF. Mais par contre, du coup, ce qu'on ne vous dit pas, c'est que c'est aussi l'effet inverse. C'est-à-dire que si vous perdez 5% sur l'ETF, vous prenez moins 10%. Il y a des comme ça, il y a des performances qui sont hallucinantes sur le Nasdaq x2. Il y a un leverage sur le Nasdaq qui fait des performances hallucinantes. Mais par contre, en termes de volatilité, il faut avoir les nerfs très accrochés. Parce que du coup, vous pouvez faire des max drawdown à 30%, moins 50% et remonter tout de suite à 100%. Bref, pour ça, c'est pour ceux qui sont, à mon avis, très aguerris. Je sais pas ce que tu en penses, toi, mais…
Ouais. Et il y a aussi un point très important, c'est que c'est du x2 daily. Donc, c'est quotidien. Donc, on peut se retrouver avec des performances sur une année. L'ETF en fait il n'a pas du tout fait x2 sur une année parce qu'il fait x2 tous les jours, mais comme c'est des pourcentages, faire 10% puis moins 10, c'est pas la même chose que faire plus 5, enfin voilà, donc plus 5 puis moins 5. Donc c'est, comme c'est daily, c'est pas tout à fait sur un an, tu vois, ça sera pas tout à fait la même performance que la performance sur un an x2. Donc ça, faut quand même faire attention, il y a des trucs à bien regarder sur ça. Et il y a du x2, il y a même du x3 qui existe, le pro shares, comment il s'appelle, ultra shares. Ils ont des noms aussi, l'ultra pro QQQ, des trucs comme ça.
Les noms, ça donne envie.
Non, les noms ils sont drôles. Et voilà, tu as du x2, tu as du x3 sur le Nasdaq. Et tu as aussi, alors ça super, là je déconseille fortement, c'est les leverage inversés. Donc c'est des x-1 ou x-2. Donc là c'est daily, ça veut dire que si normalement l'indice fait plus 5, votre ETF il va faire moins 5. Et s'il est en x-2, il va faire moins 10.
Ah oui, ça c'est short.
Donc ils sont inverses. Ouais,
c'est
ils
shorté.
Sont short,
ouais, c'est ça.
Shorté. Voilà, alors ça complète. Voilà, ouais, faut éviter de shorter les marchés en général quand on est des investisseurs particuliers. Donc on évite tout ce qui est shorté avec des ETF,
on évite
notamment.
En fait, on évite tout ce qui est exotique.
Voilà, surtout quand on débute.
En fait c'est normal, j'ai envie de dire, parce que quand on a envie d'investir, on a envie qu'il y ait un peu de piment, tu vois, dans tout ça, parce que l'investissement chiant, je pense que ce sera le mot de la fin, mais l'investissement chiant, c'est l'investissement le plus fructueux dans le temps, en fin de compte, c'est ce qui rémunère le plus. Et c'est pour ça que moi j'ai beaucoup, on me dit t'en as pas marre de toujours dire Air Liquide, L'Oréal, LVMH, c'est chiant, il n'y a pas d'autres entreprises sympas que tu pourrais me dire là. Je te dirai rien, tu fais ce que tu veux. Mais c'est des entreprises qui marchent depuis des années et des années en fin de compte. Moi dans mon PEA, je me limite mais strictement au minimum, c'est du Air Liquide, L'Oréal, LVMH quoi. Après, il y en a d'autres, je vais pas dévoiler tout mon portefeuille, bon déjà je vous ai pas mal cité. Mais voilà quoi, c'est rester simple, n'essayez pas de réinventer la roue, je pense que Il n'y a rien de plus simple sur un ETF, même un ETF S&P 500, sur plusieurs années, je crois que sur 100 ans, ça a fait 10,42% sur 100 ans.
Par
annualisé,
an, ouais.
Par an.
Annualisé.
Et à dividende réinvesti, c'est incroyable.
C'est aussi pour ça, la raison principale de pourquoi j'investis en ETF, c'est parce que c'est l'investissement, à mon sens, hein, l'investissement le plus performant pour un particulier, même pour un professionnel, parce qu'on sait bien que les fonds professionnels n'arrivent pas à faire mieux que des ETF, des simples ETF. Mais moi, j'investis en ETF principalement parce que c'est performant, pas parce que c'est passif et que j'ai pas de temps à y passer, parce qu'en soi, moi, c'est une passion, donc je pourrais y passer du temps à faire du stock picking, etc., ou être actif, ou faire du trading ou autre. Mais quand tu comprends que, alors la fameuse histoire, c'était, c'est pas tout à fait vrai, mais pour donner une bonne image, c'est que c'était Fidelity qui avait révélé que les clients qui avaient les meilleures performances chez eux, c'était des clients qui étaient décédés.
Ah, c'est dingue. Ouais.
Pourquoi ? Parce qu'ils touchaient pas à leur portefeuille. Ils faisaient rien du tout, ils étaient ultra passifs. Un peu à la manière d'un ETF ou un peu à la manière d'un gars qui touche pas à son portefeuille, en tout cas, puisque de toute façon il est décédé. Et donc ça revient sur ton erreur où tu regardais ton portefeuille tous les jours. Ça, c'est effectivement à bannir. Et en bourse, c'est quand même incroyable de se dire moins j'y passe de temps, plus je gagne de l'argent. Parce que l'équation, elle est inverse normalement dans la vie de tous les jours. Tu te dis plus je passe de temps, je sais pas moi, à étudier, plus je vais être meilleur, enfin meilleur je serai. Plus je passe du temps à travailler sur mon business, meilleurs seront mes revenus normalement, puisque c'est l'inverse. Ça veut dire que moins vous faites des transactions, vous faites du fraudement fiscal, moins vous vous payez des frais, etc. Et plus vous êtes passif, plus vous gagnez. Donc ça, c'est quand même incroyable, et autant l'exploiter quoi.
Incroyable. Ça, retenez bien ça, parce que c'est vrai que ça c'est une phrase qu'on doit tous retenir, je pense. En tout cas, merci Mathieu. Mais ouais, il y a aussi une autre chose, je terminerai dessus, c'est, tu sais, il y a eu des études sur Dalbard, tu sais, c'est un centre de recherche sur les finances comportementales des gens, et ils avaient montré que le temps, tu vois, même les professionnels, que ce soit particulier ou professionnel, le temps de détention d'une action moyenne, c'est combien c'est ? Alors pourtant, qu'on recommence sur 20 ans, 30 ans.
C'est 6 mois, comme ça, non ?
Même pas, c'est 4,5 ans.
Ah,
4,5 ans.
C'est quand même bien.
Tu trouves ?
Ouais. Ah ouais. Alors moi j'avais une statistique, c'était le temps moyen de conservation
d'un ETF ou d'une action ?
D'une action du S&P, c'est 6 mois. Dernièrement.
Faudrait que tu m'envoies ça, cette stat. Ok, moi j'ai vu peut-être celle un peu ancienne, mais en tout cas, 4,5 ans, moi j'ai vu. C'est rien, parce qu'on conseille, tu vois, toujours d'aller sur une période de temps de 20 ans, de 25 ans. Et quand tu remarques que ces données-là, en fin de compte, bah, même toi, tu vois, 6 mois. C'est ridicule.
Je voulais en parler dans une vidéo, peut-être je te l'enverrai.
Et bah voilà. Bah en tout cas, Mathieu, ce premier épisode nous a été très enrichissant, en tout cas sur la bourse. J'espère qu'il vous aura plu aussi. N'hésitez pas, on a oublié de le dire, petit pouce bleu, et de vous abonner à la fois sur la chaîne de Mathieu de S'Investir et à la fois sur Sequoia. Et puis de toute façon, nous on se retrouve très vite sur mon compte Instagram. Mathieu, un petit mot de la fin, juste avant de finir.
Eh bien, j'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup à toi, Sony, pour cet échange. Moi, j'ai trouvé ça très satisfaisant à faire, donc avec plaisir pour refaire ça un jour.
Bah, de toute façon, tu sais quoi ?
De toute façon, on a d'autres épisodes.
Tu sais quoi ? Bah ouais, il y a un deuxième épisode. Donc, de toute façon, on se voit très vite pour le deuxième épisode qui sera sur l'immobilier. Investisseurs, que la croissance et le rendement soient avec vous.